Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
La cordère et la liberté chrétienne.
Honora patrem tuam, et matrem tuam, ut longo vivas tempore.
Il nous arriva d'être à ce point remués par les accents de l'orateur que nous nous tenions à nos chaises pour ne pas faire d'extravagance et n'éclater pas en applaudissements.
Dans la France des années 1830, et malgré la déchristianisation de l'époque révolutionnaire, la pratique religieuse était certes beaucoup plus massive qu'aujourd'hui, mais l'opinion éclairée, surtout chez les hommes, restait convaincue que le fait religieux, soumis à une érosion régulière, était appelé à disparaître. Et voilà qu'une phalange de catholiques se lève qui fait revenir la religion dans l'arène. La cordère emporte la bannière. C'est d'abord un prédicateur. Il court la France en malle-poste, en diligence, bientôt en train. Il a commencé à pied et il rassemble des publics nouveaux d'une ville à l'autre. C'est en habit dominicain, en noir et blanc, qu'il prêche du haut de la chaire et qu'il marche dans la rue et qu'il est reçu en 1861 à l'Académie française. Il a refondé la branche masculine du vieil ordre mendiant déchu. Pour lui, la moitié de la force du catholicisme vient des couvents. Il faut pouvoir en créer autant que de besoin et pareillement pour les écoles. La cordère partage son chemin avec les libéraux et il trouve avantage à user des libertés publiques parce qu'elles lui permettent de proclamer sa religion. Mais la liberté chrétienne qu'il indique à l'horizon n'est pas un droit de l'homme, plutôt un don de Dieu.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Anne-Philippe Herr, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier une biographie immense, je ne dis pas le nombre de pages pour ne pas décourager les auditeurs, aux éditions du CERF, et pour encourager les auditeurs, je dis que cette biographie fourmille de traits, de petits traits. Par exemple, vous expliquez que le souvenir de la cordère, il peut passer par des phylactères, par des messages qu'on trouve d'ailleurs sur la toile, sur Internet, aussi bien que dans le portefeuille de telle ou telle de vos interlocutrices qui vous raconte son lien avec la cordère.
Oui, j'ai rencontré un jour une femme qui est veuve et qui a beaucoup de difficultés à porter cette épreuve et qui se console avec un mot qu'elle a effectivement recopié, qui est que le deuil, c'est la présence dans l'absence et c'est la parole dans le silence. Et ça, c'est tout à fait typique de l'influence de la cordère grâce à l'extraordinaire puissance de sa parole.
Alors, vous avez tous les diplômes qu'il faut, vous avez fait toutes les recherches d'archives qu'il faut. En même temps, on sent votre expérience personnelle de la rencontre. Et alors, j'allais dire, pour vous faire parler de l'enfance de la cordère, votre expérience personnelle de la maternité. Il n'y a qu'une mère pour se demander devant son héros biographé « Qu'est-ce que je peux raconter sur lui, bébé ? Qu'est-ce que je peux raconter sur lui, embryon ?»
Eh bien, en fait, moi, j'ai eu le grand bonheur d'avoir 4 enfants. Et comme la mère de la cordère, qui s'appelait d'ailleurs Anne, elle aussi. Et je pense que cette expérience extraordinaire de la grossesse et de la maternité font que quand on écrit une biographie, on l'écrit pas tout à fait de la même façon que quelqu'un qui n'est pas passé par cette véritable expérience. Donc, la cordère, il a été porté par l'amour de sa mère, c'est une évidence. Ensuite, après sa naissance, il a été encore plus porté par cet amour-là que des 4 enfants qu'elle a eus, des 4 fils, c'était en lui qu'elle reconnaissait le plus son époux.
Mais avant la naissance.
Et avant
dans
la naissance.
Le ventre de Madame Anne.
Avant la naissance, bien évidemment, nous n'avons pas d'archives. Néanmoins, la question se pose. On peut toujours la poser, se demander ce que sa mère a vécu durant cette période. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la tradition de l'école française de spiritualité, puisqu'au XVIIe siècle, des auteurs spirituels importants se sont demandé quelle a été la vie intra-utérine du Christ.
Madame Anne, elle va être veuve assez vite, mène les enfants, parce qu'ils ont du mérite, vers les carrières de carabin et de robin. La cordère va devenir avocat. Il l'est au lendemain de la révolution de 1830. C'est une révolution extrêmement anticléricale, mais lui, il la vit, c'est une expérience fondatrice pour lui, dans l'embryon de sa vie publique, aux côtés d'un petit groupe d'amis, le groupe de Lamennais, qui anime un journal, L'Avenir, dont la devise est, très minoritaire à l'époque, « Dieu et liberté ».
Oui, l'abbé Félicité de Lamennais, c'est un breton tout à fait extraordinaire, avec une immense culture, une intelligence extraordinaire, qui a fait sa propre évolution politique, puisqu'il a renoncé à la fin de la Restauration, il a complètement renoncé aux Bourbons, et il a compris que la destinée de l'Église n'avait rien à voir avec celle d'une dynastie, quelle qu'elle fût. Donc, il dit adieu aux Bourbons, la seule chose qui compte, c'est la destinée de Dieu et la destinée de l'Église. Et pour l'amener, l'Église est consubstantiellement associée désormais à l'idée de la liberté.
Et Lacordaire lui souffle le modèle américain. Et c'est sous son influence que Lamennais dit bah, il faudrait qu'on puisse développer l'action religieuse comme peuvent le faire les Américains en toute liberté.
Oui, Lacordaire, durant son enfance, durant sa jeunesse, disons, a eu une admiration sans borne pour le général Washington, pour le modèle de la vie publique aux États-Unis. Donc c'était bien avant que Tocqueville publie son ouvrage sur la démocratie en Amérique. Et Lacordaire a donc parlé de tout cela avec Lamennais juste avant la Révolution de 1830. Et donc c'est quand même intéressant et assez singulier de voir ces catholiques, qui sont vraiment des catholiques extrêmement fervents, et qui vont chercher leur modèle dans un monde qui est un monde protestant. Donc cela va beaucoup choquer un certain nombre de contemporains qui ne comprennent pas le bien fondé du paradoxe.
Et le premier à être choqué, c'est le pape. Lamennais sera condamné à partir de 1834 à jets réguliers. Lamennais est condamné, mais Lacordaire, lui, choisit la loyauté, la soumission vis-à-vis de Rome. D'ailleurs, il a des projets qui sont intra-ecclésiastiques. Il veut refonder un ordre oublié qui a été supprimé en 1792 comme les autres ordres religieux par la Révolution, l'ordre de Saint-Dominique.
Ô mon pays, pendant que vous poursuivez avec joie et douleur la formation de la société moderne, un de vos enfants nouveaux, chrétien par la foi, prêtre par l'onction traditionnelle de l'Église, vient réclamer de vous sa part dans les libertés que vous avez conquises et que lui-même a payées. Nous vivons dans un temps où l'homme qui veut devenir pauvre et le serviteur de tous a plus de peine à accomplir sa volonté qu'à se bâtir une fortune et à se faire un nom. Presque toutes les puissances européennes, rois et journalistes, partisans de la monarchie absolue ou de la liberté, sont ligués contre le sacrifice volontaire de soi. Et jamais dans le monde on eut tant de peur d'un homme allant pieds nus et le dos couvert d'une casaque de méchante laine.
Jean Topart, dans le rôle de Lacordaire à la télévision, 1961. Il va reconstituer la toile dominicaine avec les hauts lieux, Chalais, Toulouse, Nancy, Saint-Maximin, Flavigny. Il va porter l'habit dominicain, ce qui n'est pas une mince affaire parce que ça provoque beaucoup de polémiques à l'époque.
Oui, parce que le port de l'habit religieux a été interdit durant la Révolution française et Lacordaire considère que c'est une liberté comme une autre, donc il la revendique et il fait toujours appel à l'opinion. Et donc on retrouve bien dans cette démarche, qui est une démarche extrêmement sincère, extrêmement convaincue, l'importance pour lui de ses études d'avocat, c'est-à-dire en fait Lacordaire est sans cesse l'avocat d'un certain nombre de causes.
Parce que l'archevêque de Paris de l'époque, Monseigneur Affre, on est après 1840, je ne dis pas qu'on peut le comparer au président du consistoire de Marseille d'aujourd'hui face à l'usage de la kippa, mais Monseigneur Affre lui dit « Soyez prudent dans le port de l'habit, mon ami ».
Oui, bien sûr, parce que la prudence, ça fait partie des vertus qu'on prise le plus chez les ecclésiastiques. Mais Monseigneur Affre, en fait, est un homme qui a un réel courage passif par rapport aux intimidations de Louis-Philippe. Louis-Philippe le menace et dit que si Lacordaire va prêcher à Notre-Dame dans cet habit, il y aura peut-être les mêmes troubles à l'ordre public qu'en 1831. Mais Monseigneur Affre défend Lacordaire. Et finalement, Lacordaire, qui avec son don de la parole, réussit en fait à captiver complètement l'auditoire. Ça, c'est en 1843. Et donc, en fait, dès les trois premières phrases, tout le monde sait qu'il ne se passera rien.
Oui, parce qu'en 1831, l'archevêché de Paris a été mis à sac et les pots de confiture de l'archevêque ont longtemps flotté sur la scène. Tandis que maintenant, quand c'est Lacordaire, il commence à prêcher pour le carême à partir de 35-36. Il revient au temps de Monseigneur Affre dans les années 1840. Et ben, il y a foule à ses pieds. Le sténographe en est, on loue les places à l'avance pour l'entendre.
Vous qui venez entendre la parole divine, avec un cœur enflé et comme des juges, assemblés, que me demandez-vous? Que voulez-vous de moi? La vérité. Vous ne l'avez donc pas en vous. Vous la cherchez donc. Vous voulez la recevoir. Vous êtes venus ici pour être enseignés.
Vous entendez cette voix qui clame sous les voûtes de Notre-Dame?
Oui, oui. J'entends qu'on m'accuse d'avoir un cœur enflé, comme celui des juges. Ce qui est peut-être injuste pour moi et pour les juges. Mais c'est un avocat qui parle. Et il se croit toujours au prétoire.
Dieu a dit à la bourgeoisie, tu veux régner, règne. Tu apprendras ce qu'il en coûte pour gouverner les hommes. Tu verras s'il est possible de les gouverner sans mon Christ. Ne désespérons pas d'une classe qui est le fond de la société moderne et dont l'avènement au pouvoir signalé par tant de faits considérables, se rattache sans doute au plan général de la Providence.
Jean Topart de Rochef, et puis des archives venues du Jour du Seigneur, l'émission religieuse du dimanche, toujours tenue à la télévision par les dominicains. Alors, il parle, vous décrivez ça par le menu, Anne Philibert, dans une demi-douzaine de cathédrales, il tient sans arrêt des conférences de charité pour amener des fonds, il parle devant les étudiants, il parle devant les officiers de marine à Toulon. Il y a une scène extraordinaire, c'est quand il prêche en 1845, dans l'église d'Ars, devant le curé d'Ars.
Oui, c'est un très beau moment car le curé d'Ars a une réputation de sainteté qui a bien évidemment dépassé ses frontières depuis longtemps. Lacordaire a entendu cela, a souhaité faire sa rencontre et c'est vraiment une rencontre entre deux personnes qui chacune font assaut d'humilité réciproque. Et le curé d'Ars, bien sûr, veut laisser la place à Lacordaire. Lacordaire lui dit que c'est à lui de parler. Pour finir par courtoisie, Lacordaire va parler. Et c'est pour Lacordaire un grand moment, car il est bien convaincu que le curé d'Ars est un saint. Et la grande préoccupation de Lacordaire dans ces années-là, ça a été rapporté par un de ses compagnons, le père d'Anzas, c'était « Dieu, donnez-nous des saints ».
Mais le peuple des villes vient, il y a même des femmes nombreuses au pied des chaires où parle Lacordaire. Mais quand même le public, vous insistez notamment sur le public jeune de Lacordaire, c'était un public bourgeois. Et vous avez entendu ce qu'il disait aux bourgeois, prenez vos responsabilités, cessez d'être indifférent aux pauvres. Vous avez un rôle providentiel dans l'histoire du monde, sans doute, mais il faut que vous le teniez.
Pour Lacordaire, en 1830, c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. Elle a donc ramassé le sceptre qui avait été perdu par la noblesse et par la royauté. Elle a pris le pouvoir. Il lui reste maintenant à démontrer qu'elle en est digne. Et donc la dignité de la bourgeoisie ne peut être vraiment établie et reconnue que si elle assume ses devoirs. Dans cette époque-là, la France est quand même majoritairement composée de pauvres. Donc il y a énormément de choses à faire et Lacordaire insiste énormément sur le fait que personne n'est propriétaire de l'or. Dieu seul est propriétaire de l'or, donc les riches ne sont que des intendants de la richesse. Et que donc l'usage légitime qu'ils ont à en faire, c'est effectivement de venir au secours des pauvres et d'autre part d'orner les sanctuaires et troisièmement, et c'est très important aussi, d'aider les artistes à créer des œuvres de beauté.
Alors vous parlez d'un ton uni, Anne Philibert, souvenez-vous, dans une prédication, il faut abaisser mais remonter. Dans votre livre, on sent, à certaines notations, une indignation devant le comportement de la bourgeoisie vis-à-vis de certaines catégories de pauvres, et notamment des femmes et des filles pauvres.
Oui, parce que on est dans une période de grande hypocrisie vis-à-vis des mœurs, notamment vis-à-vis des malheureuses qui ont été séduites et abandonnées. On est dans une période, il suffit de lire les romans de Balzac pour avoir cet élément de confirmation. Et Lacordaire, là encore, considère que la bourgeoisie joue un très grand rôle dans cette séduction de créatures qu'il considère comme purement démunies, vulnérables, et qui n'ont pour elles, entre guillemets, que leur innocence.
Faites attention, vous, les bourgeois, tenez votre rôle. Voici ici les Lacordaire, c'est Sylvain Lelièvre, chanteur québécois important qui se fait leur interprète. Les Lacordaire, ils doivent être à la fois abstinents et ouverts.
Sors de chez toi, ouvre ta porte, vois le chemin, là qui t'attend. Viens avec nous, la joie est forte, viens avec nous, l'espoir est grand. Il y a des villages, il y a des villes, des pays neufs à défricher, des ponts à jeter vers les îles, et des cœurs vieux à réparer. Car si nous sommes Lacordaire, ce n'est pas pour nous isoler, il y a trop de bonheurs à refaire pour nous coucher dans nos souliers. Sors de chez toi, ouvre ta porte, le soleil couvre la moisson, les chagrins que la nuit apporte tomberont devant nos chansons. Quoi que ton compagnon t'appelle, il ne peut seul se relever, si t'as du cœur à la semelle, va jusqu'à lui te déchausser. Car si nous sommes Lacordaire, ce n'est pas pour nous isoler, il y a trop de bonheurs à refaire pour nous coucher dans nos souliers. Sors de chez toi, ouvre ta porte, l'espoir est riche de tes mains, l'espoir que ton sourire apporte à qui ne croit plus à demain. Ne laisse pas les potinages briser l'ardeur de tes 20 ans, les préjugés comme les adages ne valent pas un abstinent. Car si nous sommes Lacordaire, ce n'est pas pour nous isoler, il y a trop de bonheurs à refaire pour nous coucher.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun,
dans nos souliers,
sur France Inter.
Anne Philibert vient de publier aux éditions du Cerf un Lacordaire qui fait suite à un Lamennais et Lacordaire. Les Lacordaire ne se couchent pas dans leurs souliers, dit-on au Québec dans les années 1970 du grand refondateur des Dominicains des années 1840. Ils ne se couchent pas dans ses souliers quand arrive l'expérience de 1848. Son maître Lamennais, avec qui il avait rompu, avait dit que le peuple allait connaître une marche inexorable. Et la révolution de 1848 voit Lacordaire disponible à accompagner, il parle moins des pauvres maintenant, à accompagner le peuple.
Oui, pour Lacordaire, en 1848, Dieu passe du côté du peuple. Enfin, Dieu a toujours été du côté du peuple, mais en quelque sorte, là, c'est le pouvoir qui tombe dans les mains du peuple. Et Lacordaire est très admiratif, très ému par le climat de religiosité, par les manifestations de christianisme au sein de du peuple de Paris.
On peut prendre l'exemple de la révolution de février, de la mise à sac des Tuileries. Février.
Voilà. Lors de la mise à sac des Tuileries, effectivement, tout est saccagé, à l'exception du grand crucifix qui se trouve dans la chapelle royale et qui va être apporté en procession, tenu par un polytechnicien, dans une église à proximité.
Pendant que le trône est détruit, donc c'est la République sociale de Jésus-Christ.
Voilà, la République sociale de Jésus-Christ. Et Lacordaire a vraiment l'impression que les cieux sont en train de s'ouvrir. Il est pris par un véritable enthousiasme, au sens étymologique du terme, devant ce spectacle.
Mais on sent, à la légère variation de ton que vous venez de mettre, un peu d'enthousiasme chez vous aussi. Ça vous a surpris, ce Lacordaire-là?
Ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est en fait un Lacordaire inédit. C'est-à-dire que les pieux biographes de Lacordaire, après son décès, n'ont pas du tout parlé de cet aspect-là de sa vie. On peut se demander s'il a eu raison, s'il s'est trompé, s'il n'a pas été trop naïf, etc. Mais en tout cas, il y a une sorte de chape de silence sur cette période, alors que c'est une période extrêmement intéressante où Lacordaire, en fait, va dire les vérités évangéliques qui n'ont jamais changé, qui sont bienheureux les pauvres, tout simplement. Il va dire ces vérités-là. Et il va les dire à un public, en tout cas la bourgeoisie, qui ne peut pas supporter d'entendre ça. On l'accuse d'être révolutionnaire, d'être communiste, et Lacordaire va rétorquer « Je ne dis que la même chose depuis toujours, mais c'est vous qui ne pouvez plus entendre. » Parce que là, il y a un véritable enjeu. On n'est pas dans une sorte de mélopée qui permet au public d'une église de s'assoupir. on est dans une situation où il y a des choix politiques à faire, des choix importants, et notamment quelque chose de très important qui est le problème de l'organisation du travail dans un contexte économique qui est très mauvais depuis 1846.
Il est élu représentant du peuple, il s'est soumis d'ailleurs aux questions des citoyens ouvriers dans les clubs, vous racontez les séances d'interpellation. Mais alors Lacordaire, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Les gens de Marseille vont l'élire, il va être représentant du peuple très brièvement parce qu'il va voir... la population envahir l'Assemblée le 15 mai 48, il va voir la répression par la bourgeoisie des Rouges pendant les journées de juin, il va voir l'archevêque de Paris tué alors qu'il tentait une médiation sur les barricades. C'est une expérience de feu que cette expérience de la politique.
Oui, c'est une expérience d'autant plus brûlante pour lui que durant cette période-là, il lui est extrêmement difficile, parce qu'il est à la tête d'un nouveau journal qu'il a fondé, qui s'appelle L'Ère Nouvelle, il lui est extrêmement difficile de continuer à mener la vie régulière du religieux, alors que c'est devenu quelque chose d'extrêmement important à son équilibre spirituel. Et Lacordaire, d'autre part, est très profondément choqué par... l'invasion de l'Assemblée nationale par un peuple d'émeutiers. Et là, en fait, il comprend qu'il avait sans doute été naïf de penser qu'il n'y avait qu'un peuple qui était le peuple de Jésus-Christ. En fait, il y a deux fractions dans le peuple et il y a notamment des gens qui veulent une subversion totale et qui ne respectent pas les représentants. Donc là, Lacordaire se dit, bon, la République, de toute façon, elle est menacée, car ses bases ne sont pas assez solides.
Vous dites qu'assez vite, il a compris, après l'élection au suffrage universel de Louis-Napoléon Bonaparte, que celui-ci tendrait à faire un coup d'État. Il ne va pas aimer le régime de Napoléon III, qui pourtant pratique une alliance privilégiée avec le clergé et veut faire oublier par la prospérité les inquiétudes sociales de naguère.
Son Excellence, Monsieur le Duc de Morny.
Monsieur Alévi.
Monsieur le Duc.
Monsieur Offenbach.
Monsieur le Duc.
Hier au soir, l'empereur me dit, il faut décrisper les Français. Vous comprenez ce que l'empereur veut dire?
Non, monsieur le Duc, non.
Ah voilà, messieurs. Il faut que Paris soit une fête. Quand on danse, on ne dresse pas de barricade. Quand on chante, on ne harangue pas. Et quand on s'amuse, on ne se fait pas prendre au sérieux.
Il ne vous a pas échappé, monsieur le Duc, qu'il est plus aisé de faire pleurer que de faire rire.
Oh, je sais, monsieur Alévi, le rire est en ce moment hors de prix.
Et le goût que votre Excellence porte à l'art dramatique, où elle s'est déjà montrée fort à l'aise.
Merci.
Lui permet de savoir
qu'on ne trouve plus d'auteur comique, je sais. Eh bien, j'en connais au moins un, moi, d'auteur comique.
Ah oui?
Moi.
Voilà.
C'est une pièce en un acte que j'ai intitulée Monsieur Choufleury restera chez lui.
Dans un téléfilm de Michel Boiron, c'était dans le rôle d'Offenbach Michel Serrault et dans celui du duc de Morny, Michel Roux. Monsieur Choufleury restera chez lui. Monsieur Lacordaire quittera Paris.
Oui, Lacordaire considère que sa parole est une liberté et que comme toutes les libertés publiques ont été supprimées dans le cadre du coup d'État, il va se retirer. Il prend donc la décision de ne pas prêcher à Notre-Dame le carême de 1852 en s'inventant une sorte de mission qui est une mission pour aller visiter les dominicains de Belgique, de Hollande et d'Angleterre. Et ensuite, ne voulant pas paraître à Paris où la conduite de nombreux ecclésiastiques lui paraît tout à fait inimaginable, il décide d'aller s'enfouir en province.
Il a son franc-parler, et je ne sais pas si le mot que vous utilisez est une invention de votre part, il y a aussi le...
Son franc-terre.
Le franc-terre.
Oui, parce que Lacordaire a une telle importance. En fait, il est devenu, au cours de ces années, une sorte d'homme public dans l'ordre surnaturel. Donc, qu'il parle ou qu'il se taise, qu'il soit à Paris ou qu'il aille s'ensevelir en province, de toute façon, tout est interprété. Et donc son silence a autant d'impact que sa parole.
Alors, voyage en province, établissement dans des lieux de province qu'on va décrire, certains inattendus, risque de mélancolie quand même.
La mélancolie...
Parce qu'il aime bien être au centre.
Alors, non, il n'aime pas être au centre. Lacordaire, il aime se sentir porté par le sens de l'histoire. Et là, il a quand même le sentiment, en quelque sorte, que la Providence... a mis sur la scène, disons, une problématique qui n'est pas celle qu'il souhaite. Donc, il se sait condamné à la patience, une patience dont il ne peut pas dire quelle sera sa durée, mais qui peut lui paraître quand même assez longue.
Il faut passer une génération, c'est ce que certains disent en France en 2015. Eh bien, lui, il le dit en 1855, quand il fonde, on parlait de la province, et là, c'est la province profonde, à Sorèze, dans le Tarn, à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, une école héritée d'un vieux gymnase militaire, un superbe monument du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'il va aménager.
La première chose que j'ai faite, ça a été une visite générale de la maison et une foule de réparations qui s'exécutent en ce moment. Depuis les pilastres à construire dans la chapelle, jusqu'à des toiles d'araignées à enlever des fenêtres et des plafonds. Je ne puis souffrir dans une maison que j'habite, un lieu mal en ordre, fût-il à 100 pieds sous terre. Aussi, tout notre monde est sur les dents, et je me fais une réputation colossale de tout voir, et de pénétrer dans les trous inconnus aux générations qui m'ont précédé. Nous avons eu 2 jours d'exercice public. J'ai présidé à des luttes gymnastiques, à des passes d'armes, à des courses à cheval, à des scènes de théâtre. J'ai présidé à je ne sais combien de choses que je n'avais pas encore vues et qui m'ont paru très aimables et surtout attendrissantes.
Oui, il a présidé à des fêtes d'un autre type que celle de la fête impériale parisienne. La mère de famille que vous êtes toujours quand vous regardez le personnage de Lacordaire se souvient qu'il a été très malheureux au lycée impérial.
Oui, car au lycée impérial, il considère qu'il n'a pas été élevé. Les jeunes enfants étaient soumis, en fait, au mauvais traitement des élèves plus âgés, de véritables maltraitances. Et par ailleurs, il n'avait pas de véritable maître, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de tutorat, il n'y avait pas de prise en charge de l'enfant dans sa totalité. Donc, Lacordaire a un projet complètement différent à Sorèze, bien sûr, qui repose sur une paternité véritable, ce qui permet à des enfants parfois très jeunes, qui arrivent parfois à l'âge de 5 ans à Sorèze, de réussir à s'épanouir et à grandir dans ce climat-là, qui est un climat de confiance et en même temps un climat très exigeant, car Lacordaire attend toujours d'eux le meilleur. Et ce qui est important aussi, c'est que Lacordaire veut faire d'eux de bons citoyens, pas uniquement de bons catholiques.
C'est-à-dire des bourgeois qui vont avoir conscience de leurs devoirs sociaux et qui ne vont pas rester dans l'indifférence. Et on revient à un point de vue déjà développé avant. Juste une chose qui m'a fait sourire, qui va peut-être vous gêner, parce que ça amène une question complexe en peu de temps. Aujourd'hui, c'est devenu un hôtel spa abbaye. Et alors, sur les sites, on voit les gens qui viennent à l'hôtel, des bourgeois qui ne sont pas très conscients de leurs devoirs sociaux peut-être et qui ignorent l'histoire, qui disent mais alors il fait froid, il n'y a pas d'eau chaude, la piscine est trop petite, la chambre est minuscule, et leur directeur s'acharne à leur dire bah oui mais les pères dominicains à Sorèze ils avaient de toutes petites chambres et encore personne ne sait les austérités que s'imposait Lacordaire dans sa cellule. On parlait souvent des pénitences que s'inflige ce libéral impénitent.
Oui, pour Lacordaire, ça fait partie de sa vie invisible. C'est quelque chose que l'essentiel de ses amis vont découvrir après sa mort, dans les révélations qu'en fera le père Chocarne, un de ses premiers biographes, qui insiste beaucoup sur le fait qu'il a énormément hésité avant de prendre la décision d'en parler. Mais c'est au cœur de sa vie religieuse. On peut dire simplement que Lacordaire, d'une part, est extrêmement influencé par le modèle de Saint-Dominique, dont le procès en canonisation rapporte toutes les mortifications qu'il s'infligeait et qu'il se faisait infliger. Et d'autre part, Lacordaire, qui est un grand lecteur du Conte de Maistre, est convaincu de l'importance de la réversibilité des grâces. Et donc, c'est toujours l'idée que l'innocent souffre pour le coupable. C'est-à-dire, en fait, l'innocent souffre pour le salut du coupable.
Merci à vous, Anne Philibert. Votre Lacordaire aux éditions du CERF. Jacques Sigal a réalisé cette émission avec à la technique Enzo Labori, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Clara Garzon pour la préparation. Et vous, Mathieu Vidard?
Être heureux au travail, Jean, les entreprises humanistes. Mais oui, ça existe.
Eh bien, Dieu vous entende, je parle comme Lacordaire.